Accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Quelle solution pour accueillir les migrants arrivant en Europe? L'année dernière, on comptait 581 000 nouveaux demandeurs d'asile sur tout le continent. En Bosnie, en France, en Italie, des campements de fortune s'établissent encore et toujours. Mais la solidarité des habitants s'organise comme dans ce petit café de Vintimille, ville frontalière de la France. Le bar s'appelle Le Hobbit. C'est un des rares lieux d'accueil pour les exilés venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Sa propriétaire, surnommée Mama Africa, résiste face à la pression des autorités italiennes et à l'hostilité d'une partie des habitants. Reportage de Bruno Faure.
Alors, le café?
Tre café, per me.
En apparence, le bar de Delia Buonomo n'a rien d'extraordinaire. Quelques tables, une petite machine à café, de quoi grignoter. L'essentiel est ailleurs, explique Adou, soudanais passé par la Libye, arrivé il y a 4 ans à Vintimille.
Ce lieu est vraiment très important pour les immigrés, surtout pour nous, les Africains. On l'appelle d'ailleurs le bar de Mama Africa. Tous les nouveaux qui arrivent passent d'abord chez Mama Delia, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent s'asseoir et recharger leur portable. Elle aide tout le monde. Moi, par exemple, j'ai appris à parler italien avec elle. Oui, c'est un endroit très important.
Derrière le comptoir s'active Delia, petite femme aux cheveux grisonnants, au regard bienveillant derrière des lunettes à monture noire. C'est en 2015 que sa vie a basculé lorsque les migrants se sont massés à la frontière avec la France.
Iniziato 4 anni fa con l'ingresso di dell'immigrazione.
J'ai commencé il y a 4 ans avec le boom de l'immigration en Italie quand il y avait plus de 1000 personnes par jour.
1000 personnes al giorno.
L'idée d'aider notre prochain est née comme ça, spontanément. L'instinct d'aider survient au moment où il y a un besoin. Ce n'était pas programmé à l'avance.
Et c'est aussi là que ces ennuis ont commencé. Devenu le port d'attache des exilés, le Hobbit a été déserté par ses anciens clients italiens.
Les gens lambda ne viennent plus ici. Il n'y a plus que les gens qui pensent comme moi et qui me soutiennent qui viennent. Mais les clients que j'avais avant, il n'y en a plus aucun. Regardez vous-même, à 1h30 de l'après-midi, il n'y a personne.
Avec la police, avec les autorités, avec la mairie, comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent voir qui est là?
Il y a moins de migrants qu'il y a un an et demi, donc les contrôles ont diminué. Les policiers passent voir en voiture et comme il n'y a plus personne, je ne suis plus contrôlé comme il y a 2 ans, quand il y avait beaucoup de gens à l'extérieur.
Fuori della strada c'era tanta gente.
Delia est ainsi devenue paria dans sa propre ville, qui au printemps dernier a élu un maire soutenu par la Ligue de Matteo Salvini, opposé à l'immigration. Manuela, bénévole, vient fréquemment pour aider les migrants.
L'environnement, ça a été très très difficile pour Delia aussi, parce que déjà toute la rue, personne ne lui parle par exemple. Elle n'a plus de clientèle blanche. Et puis elle a eu pas mal de problèmes avec les autorités, la police et les contrôles. Elle a eu plus de contrôles que n'importe quel bar à Vintimille, je pense.
Pas de clients, pas de revenus. Le bar est menacé de fermeture.
Ça serait vraiment une grosse, grosse catastrophe pour tous les jeunes qui s'appuient sur ce bar pour recharger les téléphones, pour se reposer un petit peu, pour avoir un sas de décompression ici à Vintimille. Et toujours avec un sourire de la part de Delia et éventuellement pour femmes et enfants, de la nourriture, des jouets, un petit peu de vestiaire. Et aussi pour les associations qui s'appuient sur ce bar pour faire les réunions et pour rencontrer peut-être les femmes qu'on ne rencontre pas dans les lieux d'accueil à Vintimille.
Il n'y a pas beaucoup de lieux à Vintimille pour ça?
Alors il y a le centre de la Croix-Rouge, mais c'est quelque chose de complètement à part, dans le sens où il faut donner ses empreintes pour pouvoir rentrer là-bas. Et il y a la Caritas qui fournit les repas à midi et qui donne du vestiaire, mais c'est ouvert de 9h à 11h. Donc à partir de 11h, les gens sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Si personne ne l'aide, elle ne pourra plus aider les jeunes.
Pour éviter le pire, un appel aux dons a été lancé avec un certain succès. Le Hobbit est toujours là, Pour l'instant, Delia peut continuer à réunir les gens qui la soutiennent.
L'apericena, c'est une soirée où on fait un apéritif avec toutes les associations, les amis, les volontaires. On se réunit quand on en a l'occasion pour se voir tous ensemble.
Et les migrants, les exilés, est-ce que maintenant vous avez créé des amitiés avec ces gens-là ?
Oui, il y a des migrants avec qui j'ai créé des liens d'amitié presque familiaux.
Si può dire familiare, sì, ed è bellissimo. Molto bello.
C'est très beau. Même avec les personnes qui ont réussi à avoir des papiers en France, on a encore des contacts. De temps en temps, ils viennent nous voir comme une famille.
Et en France, à Paris, le campement de la Porte de la Chapelle a été démantelé il y a un mois. Plus de 1600 personnes ont été relogées en centre d'accueil d'urgence ou en gymnase, mises à l'abri selon l'expression des autorités. Mais cette opération n'a pas mis un terme au problème d'hébergement d'urgence. Alors que le froid hivernal glace les rues de Paris, un campement de 2000 réfugiés est toujours constitué près de la porte d'Aubervilliers. L'ONG Utopia 56 met en relation ces exilés sans toit et des hébergeurs citoyens. Marie Casadebé a passé une soirée avec les bénévoles de l'association.
Je communique avec une équipe qui est porte d'Aubervilliers. C'est eux qui donnent rendez-vous aux familles tous les soirs à 18h là-bas.
Au milieu des sacs de vêtements et des toiles de tente étendues pour sécher, Yona Némé a les yeux rivés sur deux écrans. Son smartphone d'un côté, un ordinateur de l'autre.
On les rentre sur ce logiciel et ensuite en parallèle, on a une liste donc des hébergeurs qui sont potentiellement disponibles ce soir-là. Par exemple, là sur la conversation, j'ai une 18e famille qui est arrivée. Il y a trois personnes, un couple, des enfants, j'ai leur nom de famille, leur pays d'origine, ainsi que les prénoms et les dates de naissance.
Toutes les familles qui se présentent au point de rencontre, souvent grâce aux bouches à oreilles, n'auront pas la chance de passer la nuit au chaud. Cette bénévole doit s'adapter aux contraintes des hébergeurs.
Ce soir, j'ai 77 hébergeurs à contacter. Dans les faits, je vais avoir peut-être 8 ou 9 qui vont me répondre oui. Donc ça laisse encore beaucoup de familles à la rue. Voilà.
Un crève-cœur. Depuis le démantèlement du campement de la Porte de la Chapelle, ce sont surtout des familles afghanes, pakistanaises, somaliennes et érythréennes, fraîchement débarquées en France, qui font appel à l'association.
Combien de familles ? Il y a du monde ?
Ouais, 22 là pour l'instant.
Plus qu'hier quoi.
Ouais, quand même, ouais. Okay. Avec des familles de 7, 6...
Yann Manzi a créé Utopia 56 il y a près de 4 ans, à l'origine pour coordonner les bonnes volontés dans la jungle de Calais, dans le nord de la France. Depuis, l'association s'est déployée dans plusieurs villes. Rien que dans la capitale cette année, 1400 familles ont ainsi pu être hébergées chez des particuliers. Yann Manzi tient les comptes pour rappeler à l'État ses défaillances.
Bah oui, ils nous servent à communiquer pour faire pression sur l'État et sur les élus de façon à ce qu'ils ouvrent des dispositifs et qu'on ait plus ces femmes et ces bébés dans les rues en fait. C'est pas à nous de faire ça à la base. Hein. Imaginez bien qu'on fait ça tout simplement parce qu'il y a une urgence sur le terrain en fait.
Le terrain, il est à quelques centaines de mètres des bureaux de l'association.
J'ai une solution à Fontenay-sous-Bois.
Fontenay-sous-Bois ?
Ouais.
Oui, bon, peu importe.
Ça va ?
Ouais,
ok, super. Je note alors.
Un coin de rue au bord du périphérique. Il fait 6 degrés sous une pluie fine. Une dizaine de familles se pressent autour des volontaires d'Utopia 56. Chacune est confiée à un bénévole chargé de l'emmener chez son hébergeur.
What's your name?
Ahmad Zay.
Ahmad Zay, ok. And you? Ces gens, ils connaissent pas Paris, ils savent pas s'orienter dans le métro ni quoi que ce soit. Donc s'il y a personne pour les emmener, bah, c'est très difficile pour eux de se repérer et potentiellement ils vont dormir dans la rue à cause de ça.
Ahmad Zay et sa femme, enceinte de 8 mois, sont arrivés 6 jours plus tôt à Paris. Ahmad Zay, qui porte l'unique sac de voyage du couple, ne parle pas très bien anglais.
On vient juste d'arriver en France en novembre parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Afghanistan, trop de problèmes. Nous avons quitté notre pays en juillet pour venir ici. Il y avait des combats tous les jours. Ici, c'est la deuxième fois que nous sommes accueillis pour dormir.
Quelques stations de métro plus tard, le contraste est saisissant. Nous sommes dans le quartier branché des Batignolles.
Allô ? Oui, bonsoir Béatrice, c'est Mégane. J'accompagne les deux personnes que vous allez héberger. C'était juste pour vous dire qu'on est en route. À tout à l'heure.
Bonsoir.
50 mètres carrés que Béatrice partage avec ses trois enfants, visiblement excitée par l'arrivée du couple. Valentine, sa fille, joue les hôtesses et fait visiter l'appartement.
C'est que la deuxième fois qu'on reçoit des gens, parce qu'on a entendu parler de ça il n'y a pas longtemps.
Ça s'est passé comment la dernière fois ? C'était une bonne expérience ?
Oui, très bien. On est allé avec eux, on est allé voir la tour Eiffel. Ils étaient super sympas, ils avaient une petite fille. Elle était trop mignonne, c'était super. Ils venaient d'Érythrée.
Béatrice est depuis longtemps engagée dans des associations venant en aide à des exilés, mais elle n'avait, jusqu'à il y a quelques semaines encore, jamais sauté le pas d'ouvrir sa porte.
Je ne savais pas que c'était possible et aussi simple. J'ai été une soirée à Porte d'Aubervilliers, j'ai accompagné une famille, dont une famille qui est hébergée. Il y avait 40 familles ce soir-là à Porte d'Aubervilliers, avec des enfants qui jouaient dans tous les sens et qui attendaient d'être hébergés. Et en fait, sur ces 40 familles, on m'a dit qu'il y en a 20 qui avaient dormi dehors. Et là, j'ai encore la chair de poule. Et j'ai trouvé ça dingue, en fait. Au-delà de toutes les histoires, de tout ce qu'on reproche aux uns aux autres, de qui doit s'occuper de quoi, au bout d'un moment, il y a juste des familles qui dorment dehors à 20 mètres de chez nous, alors que c'est tellement simple d'ouvrir ces portes pour quelques heures, de 21h à 6h du matin, c'est rien. Et donc, ça a été le déclencheur, en fait, de m'apercevoir. Je crois que j'en avais pas conscience.
Comme elle, 220 hébergeurs sont inscrits sur les listes d'Utopia 56 à Paris. Ils devraient être bientôt plus nombreux avec le froid de l'hiver qui s'installe. Quant à Armadzaï et sa femme, ils ont rendez-vous le lendemain matin à la préfecture dans l'espoir d'obtenir un logement en attendant l'examen de leur demande d'asile.
Comment changer le regard du public européen sur l'Afrique ? C'est cette question que la Camerounaise Veye Tata s'est posée dès son arrivée en Allemagne dans les années 90. À l'époque étudiante en ingénierie informatique, elle décide avec trois autres étudiants africains de lancer Africa Positive, un magazine trimestriel qui, 20 ans après, est devenu une référence en Allemagne. Cécile Debarge l'a rencontrée.
C'était il y a un peu plus de 20 ans, en 1998, que Veye Tata se décide. Sans aucune formation en journalisme, elle crée Africa Positive, le premier magazine destiné à promouvoir une information différente sur le continent dont elle est originaire.
Notre but n'était pas de réaliser un magazine parfait, c'était juste d'informer les gens avec nos propres mots, avec notre manière à nous, avec les expériences que l'on a amenées de nos pays. C'était la première fois de ma vie que j'écrivais un article.
À l'époque, elle étudie l'ingénierie informatique. Pour financer les 10 000 premiers exemplaires du numéro 1, elle emprunte de l'argent à ses parents sans leur dire à quoi ça servira. Son objectif est pourtant déjà clair.
Changer la rhétorique pour montrer aux Allemands qu'on a des choses positives en Afrique. Et je pensais que la première couverture du magazine devait être consacrée à Nelson Mandela, parce que c'est l'Africain que tout le monde connaissait dans le monde entier.
L'équipe de rédaction est composée de trois autres étudiants africains, tous plutôt portés sur les sciences et l'ingénierie. 20 ans plus tard, le magazine est passé de 2 à 4 publications par an. La une du dernier numéro est consacrée au smartphone Mara, entièrement fabriqué au Rwanda et au gouvernement de transition au Soudan. Pourtant, explique Veye Tata, pas question de transformer le magazine en propagande positive.
Nous publions des articles critiques, mais pour nous, le plus important, ce sont les informations de contexte. On écrit beaucoup sur la guerre, sur la corruption, sur toutes les thématiques que vous voulez, mais on présente toujours tous les acteurs, qui sont les parties prenantes, qui est impliqué, et c'est ça la différence.
La clé, selon elle, c'est d'éviter une approche manichéenne des sujets et en particulier la rhétorique qui consiste à ne décrire l'Afrique que comme un continent pauvre.
Même si vous venez en Allemagne, vous trouverez des gens pauvres. Il y a des gens qui font la manche, des gens qui dorment dehors, il y a de la pauvreté partout. Le truc, c'est de toujours raconter les deux facettes de l'histoire et ne pas simplement prendre un continent en entier et dire « tout ce continent est pauvre ». C'est la mauvaise manière de raconter les choses.
Pour toucher le grand public, pas forcément sensible à ces questions, elle noue de nombreux partenariats avec les médias allemands, mais aussi avec les écoles, en leur envoyant des numéros gratuits du magazine afin de déconstruire les stéréotypes le plus tôt possible. Un pari qu'elle estime aujourd'hui plutôt réussi.
Je n'ai pas seulement réussi à changer la mentalité dans les médias, mais aussi dans le paysage des ONG, parce qu'ils utilisaient toujours des visages de femmes africaines, d'enfants du continent africain pour leur récolte de fonds, et c'est toujours quelque chose que j'ai critiqué.
20 ans plus tard, Veyetata se réjouit que les ONG n'aient plus systématiquement recours à des images misérabilistes pour leur récolte de fonds. Le dernier numéro d'Africa Positive et tous les prochains sont eux disponibles soit sur abonnement, soit sur le site internet du magazine, au prix de 4,75€ en Allemagne.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Et c'est l'heure de la chronique musique d'Accent d'Europe. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Alexis.
Aujourd'hui, vous nous dévoilez le nouvel album du chanteur et musicien franco-italien Fabio Viscogliosi.
Rococo, c'est le nom du disque qui signe le retour à la musique de Fabio Viscogliosi, français d'origine italienne, qui ces 12 dernières années s'était entièrement consacré à ses activités littéraires et graphiques avec 3 romans, des bandes dessinées et des expositions. Pour autant, Fabio Viscogliosi n'avait pas cessé de composer et avec le label Objet Disque, il est allé puiser dans ses cartons de quoi faire non pas un, mais 2 albums, puisqu'une suite est déjà annoncée pour 2020. Cette première livraison, Rococo, s'affiche sous la forme d'un recueil de chansons faussement nonchalantes et économe en effet, rythmique discrète, guitare acoustique et quelques beaux arrangements de cordes habillent des morceaux qui balancent entre le français et l'italien, comme ce dicembre de circonstances que je vous propose d'écouter.
Certe cose nella notte vicino al mare, i movimenti, vento nel vento, vicino al mare, dicembre, dicembre. Quando la nave se ne va nell'acqua calda, cerco forse la realtà del tempo sfumato, dicembre, dicembre.
De Rococo, le nouvel album du chanteur franco-italien Fabio Viscogliosi. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site internet rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. À lundi.